Bien, bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous ce matin quelques pensées sur le début du livre de Esdras. Ce début du livre de Esdras nous parle du retour du peuple juif, de la restauration de ce peuple juif. Tout d'abord, quelques indications d'ordre historique et peut-être pour nous poser aussi la question, mais en quoi ce thème, qui normalement concerne le peuple d'Israël, peut nous concerner, nous, aujourd'hui. En 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem avait été détruite par l'armée de Babylone et le peuple de Juda fut déporté. En 539 avant Jésus-Christ, hein, donc vous voyez ça, en calendrier, on se rapproche de zéro, hein, on n'a pas forcément l'habitude, 539, ouais, c'est après 587 parce qu'on est avant Jésus-Christ. En 539, l'empire babylonien est défait par les Perses. Et pour ériger son empire médo-perse, leur chef, qui s'appelait Cyrus, permet le retour dans leur pays de nombreuses populations déportées par les Babyloniens, dont les Juifs. Au début, ce livre de Esdras, en fait, parce qu'il y a Esdras et Néhémie, au début, ça ne formait qu'un seul livre, mais aujourd'hui, nous, dans nos Bibles, hein, on a bien un livre d'Esdras et puis le livre de Néhémie qui, lui, nous parle de la reconstruction des murailles de Jérusalem. En quoi ce qui concerne normalement le peuple d'Israël peut-il nous concerner aujourd'hui? A priori, hein, nous n'avons pas vécu l'exil, hein, peut-être éventuellement l'un ou l'autre parmi vous, mais a priori, peu de personnes parmi nous ont connu l'exil, peut-être que nos parents ou nos grands-parents ont connu de tels moments, en lien peut-être avec la Deuxième Guerre mondiale, mais peut-être connaissons-nous aussi des personnes exilées. L'exil comprend certainement plusieurs dimensions, une dimension matérielle, certainement cette souffrance de devoir laisser, de se séparer aussi de tous les biens, de ce qu'on a, une dimension physique, cette rupture, cette séparation aussi avec un lieu géographique dans lequel on a vécu, mais aussi certainement une dimension qui n'est pas la moindre, la dimension affective. Au-delà de ces formes d'exil, je dirais classiques, connaissons-nous peut-être d'autres formes d'exil? On pourrait trouver peut-être des synonymes à exil. C'est peut-être l'obligation, à un moment de notre vie, de nous séparer de biens, de personnes qui nous sont chères. Et nous le vivons comme un exil, comme peut-être une traversée du désert. Mais ce livre de Esdras nous montre que le retour de l'exil est possible. Et on va voir dans ce livre d'Esdras que ce retour de l'exil, ce projet, je dirais, de restauration du peuple d'Israël, restauration que le Seigneur veut aussi pour nous, si nous en avons besoin, on va voir que ce retour se fait sous une double action de Dieu. Alors, je vous invite dans un premier temps à voir cette double action de Dieu. Nous allons ouvrir le livre de Esdras et je vous propose la lecture des quatre premiers versets dans le chapitre 1. Esdras 1, versets 1 à 4. Qui va nous montrer la première action de Dieu. Parce que j'ai parlé d'une double action de Dieu. La première année, je lis les quatre versets, la première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire, oralement et par écrit, la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tout les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple ? Que leur Dieu soit avec eux, et qu'ils partent à Jérusalem en Juda pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. Que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. La première action de Dieu, aussi bizarre que cela peut paraître, cette action de Dieu, elle se fait auprès des païens. On est donc en 538 avant Jésus-Christ, l'empereur Cyrus agit en faveur du peuple d'Israël. Et là, on voit que l'action de Dieu n'est pas limitée. Trois limites qu'il n'y a pas. Premièrement, on voit que l'action de Dieu n'est pas limitée dans l'espace. En effet, Dieu agit ici, en territoire païen, au profit d'Israël. Alors que la pensée de l'époque, c'était que un Dieu, peu importe lequel, ne pouvait agir que sur le territoire du peuple, que sur le territoire du peuple qui vivait hein, sur ce territoire. Or là, Dieu, le vrai Dieu, hein, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, agit en territoire païen au profit de son peuple. Deuxièmement, il n'y a pas de limite humaine. Dieu utilise l'action d'un roi païen, Cyrus, au profit du peuple d'Israël. Et troisièmement, il n'y a pas de limite matérielle. Ce sont des païens, hein, on l'a lu au verset 4, ce sont des païens qui font des dons généreux au profit du peuple d'Israël. Je crois que cela doit peut-être aussi nous sensibiliser. Peut-être que dans nos propres vies, Dieu peut agir pour nous, ou Dieu peut agir pour son peuple, en utilisant parfois, même si ça nous paraît surprenant, des personnes non chrétiennes. Des personnes que Dieu peut même, à un moment donné, placer sur notre chemin pour nous faire du bien, ou pour nous donner peut-être une parole de restauration. Alors évidemment, normalement vous allez me dire c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle des chrétiens, des chrétiennes. Mais n'oublions pas que Dieu peut aussi utiliser d'autres personnes. Moi je me souviens à un moment de ma vie, quand j'étais étudiant en classe prépa, un peu... en situation, aujourd'hui peut-être qu'on dirait de burn-out, de quasi-dépression, je m'étais rendu chez un médecin parce que j'étais un peu au bout du rouleau, et ce médecin m'avait prononcé une parole dont il n'avait certainement pas connaissance de la dimension que ça allait avoir pour moi, certainement qu'il était non-chrétien, on n'a pas eu l'occasion de parler de ces choses-là, et il m'a dit, mais jeune homme, parce que j'étais jeune à l'époque, jeune homme, parce qu'il sentait, il avait discerné chez moi une grosse peur, la peur de l'échec, parce que l'échec était assez évident à l'époque, en première année de prépa pour moi, voilà, sauf à être un optimiste, un suroptimiste, ce que je n'étais déjà pas tout court, et il m'a dit, jeune homme, vous savez, dans la vie, ce qui est le plus difficile, c'est votre premier échec. Et il vaut mieux que vous le connaissiez jeune que à un âge parfois plus avancé, parce que il voulait me dire que vous remettrez mieux de votre échec maintenant jeune. Et ça, ça m'avait libéré. Je me dis, je vais peut-être connaître là mon premier vrai échec. Et allons-y, continuons le chemin, et puis on verra bien. Et ça m'avait remis des choses en place, y compris peut-être même dans la gestion de mon temps. Et je me suis dit, je fais confiance à Dieu. Je ne raconte pas la suite parce que
Dieu a fait des miracles, mais voilà. Mais c'était une parole clé, elle ne venait pas de la Bible, elle ne venait pas d'un frère ou d'une sœur chrétienne, mais ça m'avait marqué. Et je suis convaincu que Dieu l'avait utilisé pour, à un moment donné de ma vie, me donner une parole. Alors peut-être que pour vous aussi, peut-être que ça vous est déjà arrivé, ou que dans nos situations, ne fermons pas les portes. Ça peut être un voisin, un collègue de travail, ça peut être quelqu'un, même non chrétien, qui peut vous adresser une parole qui peut vous faire du bien. Pensons aussi aux autorités. Vous connaissez le passage, 1 Timothée 2, verset 2. Ben voilà, les autorités, en général, elles sont plutôt non chrétiennes que chrétiennes. Mais les autorités aussi peuvent, à des moments donnés, être amenées à prendre des décisions qui vont en faveur du peuple de Dieu, qui peuvent être bonnes pour nous. Ensuite, deuxième action de Dieu, évidemment, l'action de Dieu, elle va aussi se faire auprès des exilés juifs. Je vous propose la lecture du verset 5 du chapitre 1. Ce verset 5 nous dit « Alors, les chefs des groupes familiaux de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, et là il y a une expression clé dans ma traduction, et tous ceux en qui Dieu avait agi, se préparèrent à partir afin de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. » Tous ceux en qui Dieu avait agi. Sans vouloir changer le texte, c'est peut-être aussi tous ceux qui ont laissé Dieu agir dans leur vie. Parce que là, le peuple juif arrive à un moment donné, ils peuvent retourner dans leur pays, retour de l'exil, mais pour autant, vont-ils le faire ? Il s'agit là d'une décision personnelle. À l'époque, certains juifs exilés connaissaient des conditions matérielles très favorables. Et revenir dans leur pays d'origine n'était pas forcément évident pour tous. D'ailleurs, une importante colonie juive restera à Babylone. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont pris la décision de ne pas revenir dans leur pays d'origine. La restauration suppose donc aussi, parfois dans nos vies, de faire un choix personnel, d'entrer dans une logique de restauration et de laisser l'œuvre de Dieu se faire dans nos cœurs. À l'époque, pour les Juifs, retourner à Jérusalem, c'était une affaire de 900 à 1000 kilomètres. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas de voiture. Donc, concrètement, c'était 2 à 3 mois de voyage. Et dans des conditions qui n'étaient pas forcément faciles. Donc, un vrai choix. Je crois que Dieu, dans nos vies, il peut permettre et nous offrir l'occasion d'une restauration en agissant, comme on l'a vu, à travers les païens, parfois, en agissant à travers des membres du peuple de Dieu, mais que quelque part, nous sommes partie prenante. Quelle va être notre décision ? Ces personnes qui sont revenues, encore une fois, c'est tous ceux en qui Dieu avait agi. Tous ceux où il y a eu un travail qui avait été fait dans leur cœur et qui fait qu'au moment où l'opportunité s'est faite, ils ont dit, nous, on y va. Donc, laissons aussi ce travail de Dieu faire dans notre cœur pour que le moment venu, nous puissions aussi faire le ou les bons choix. Le peuple de Dieu rentre, au pays, et là, on peut imaginer, le chantier, le chemin pour arriver à cette restauration, à cette reconstruction. Par quoi commencer ? Où est l'essentiel ? Peut-être que dans vos vies aussi, parfois, on a l'impression de montagne. Ouais, je voudrais bien, mais le chantier me semble tellement immense. Par quoi est-ce que je vais commencer ? Je me sens dépassé. Par quoi commencer ? Le chemin peut sembler long. Le chemin peut sembler difficile.
voire insurmontable à vue humaine dans nos vies.
Mais
le peuple, là aussi, va faire de bons choix. Cette restauration va se faire en plusieurs étapes. On va voir les deux premières parce qu'il y aura après interruption des travaux. Mais la question, c'était par quoi commencer au départ. Et on va voir que le peuple de Dieu va commencer par la restauration de l'autel, la restauration du culte, par ce qui est le plus important. Je vous invite à lire dans Esdras au chapitre 3, les trois premiers versets. Esdras 3, versets 1 à 3. Quand arriva le septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme. Josué, fils de Yotsadak, avec ses collègues les prêtres et Zorobabel, fils de Sheltiel, avec les gens de sa parenté, se mirent à l'œuvre et reconstruirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Malgré leur peur des populations locales, parfois il y a aussi des obstacles, il y en aura par la suite pour le peuple, malgré leur peur des populations locales, ils rétablirent l'autel sur ses anciennes fondations et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, ceux du matin et du soir. Le peuple ne commence pas par les murs du temple, mais par le centre de la spiritualité à l'époque, l'autel. C'est le lieu du sacrifice, le lieu de la repentance sincère, le lieu de la grâce, comme une anticipation de ce que nous avons le privilège de connaître, la croix, la mort, la résurrection de Jésus. Où est l'essentiel dans nos vies? Par quoi allons-nous commencer si nous sommes conduits aussi, comme le peuple d'Israël, à un travail de reconstruction, à un travail de restauration dont nous avons peut-être besoin suite à différents événements de nos vies? Peut-être que notre vie n'est pas en ruine, mais c'est peut-être aussi l'occasion quand même de se poser la question où est l'essentiel de nos vies? Que mettons-nous au centre de notre vie? Dans un second temps, et ce sera le dernier point, dans un second temps va débuter la reconstruction du temple. Je vous invite à lire tout d'abord les versets 7 à 10, parce que on va voir cette reconstruction du temple se fait avec un certain nombre de personnes, et on va voir aussi comment le peuple réagit. Esdras 3, versets 7 à 10. On remit de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils acheminent par mer jusqu'à Jaffa du bois de cèdre depuis le Liban. Tout cela fut fait en vertu de l'autorisation accordée par Cyrus, roi de Perse. Donc c'est ce roi, on l'a dit, qui a permis aussi tout cet acheminement de matériel dont il y avait besoin pour reconstruire le nouveau temple. Dans la deuxième année, verset 8, après l'arrivée des exilés au temple de Dieu à Jérusalem au deuxième mois, Zorobabel, fils de Sheltiel, José, fils de Yotsadak, et le reste de leurs compatriotes, les prêtres et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Les lévites âgés de 20 ans et plus furent chargés de superviser les travaux du temple. Comme partout, il y a besoin de gens qui supervisent. Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils qui étaient descendants de Juda, eurent pour fonction de superviser tous ensemble ceux qui travaillaient au chantier. Ils étaient assistés des descendants de Henadad, bon, il y a beaucoup de noms, hein, avec leurs fils et leurs parents, les Lévites. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on mit en place les prêtres revêtus de leurs habits de cérémonie avec des trompettes en main et les Lévites descendants d'Azaph avec les cymbales afin de louer l'Éternel selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Je reviendrai là-dessus. Mais donc, on voit que cette construction, les fondations du nouveau temple, tout ça, ça se fait avec une saine coordination. Chacun à sa place, dans des rôles parfois différents. Les uns, ils ont un rôle plutôt de superviser, d'autres ont d'autres fonctions, mais ça se fait dans l'ordre et avec des personnes qui ont des fonctions différentes. Nous aussi, chacun de nous, si nous appartenons au Seigneur, nous avons notre place dans l'œuvre de Dieu. Et l'important n'est pas de savoir si on supervise ou si on ne supervise pas, si on est plus doué pour ceci ou pour cela, si on a tel don ou tel autre. Nous aussi, nous pouvons aider dans ce travail de construction ou de reconstruction. Dans le cadre, évidemment, de l'Église, mais peut-être aussi auprès de personnes plus individuelles qui ont besoin de notre présence, qui ont besoin peut-être d'un mot d'encouragement ou juste d'un sourire dans un travail de reconstruction qui est en train ou qui va se faire dans leur vie. Que le Seigneur puisse donc vous guider, nous guider pour être ces femmes et ces hommes dans son œuvre pour ce travail de restauration auquel Dieu nous conduit. On voit que cette reconstruction se fait, déjà à la fin du verset 10, il est dit donc que, avec la musique qui va avec, ben, le peuple adresse la louange à l'Éternel. Je vais un peu plus loin, je lis le verset 11. « Ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle « Oui, il est bon » et son amour pour Israël dure à toujours. Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel parce qu'on posait les fondations de son temple. Ce travail de restauration provoque la louange. Peut-être est-il parfois douloureux. Peut-être parfois prend-il du temps. Et je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais ce travail va aussi connaître une période importante d'arrêt pour le peuple d'Israël, avec des obstacles intérieurs, des obstacles extérieurs. On en parlera peut-être là une autre fois. Donc, pour arriver au bout, ça n'a pas été facile. Mais là, je dirais, ils sont dans le début du travail, peut-être aussi avec encore tout le zèle, toute l'espérance que cela provoque. Mais il est bon dans nos vies aussi de prendre ce temps de louange, ce temps de remercier Dieu pour la restauration, la reconstruction qu'il permet. Alors je terminerai sur les versets 12 et 13, où là, on va voir qu'on a des personnes qui ont, on va dire, un comportement, des réactions différentes. Les uns vont pleurer de joie, et les autres vont pleurer de une certaine tristesse. Alors, lisons les versets 12 et 13. « Beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de groupes familiaux, parmi les plus âgés, voilà, c'est important, ceux qui sont à un âge plus avancé, qui avaient encore vu l'ancien temple, donc eux avaient connu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple. Alors que, deuxième catégorie de personnes, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs, le peuple poussait de grands cris dont l'écho retentissait au loin. » On peut comprendre ceux qui ont connu l'ancien temple,
Voilà, pour eux, c'est... Certes, il y a le nouveau temple, mais on avait connu l'ancien temple. Ça provoque des souvenirs, ça provoque... Ouais, ça provoque peut-être ouais, de la nostalgie aussi, on peut comprendre. Peut-être aussi dans le cadre d'une église, ben, il y a tous ceux qui ont connu avant, qui ont connu... Voilà, et ça provoque des souvenirs, ça provoque de la nostalgie, ça provoque... Parfois, on n'entend pas, avant c'était mieux, avant c'était... Voilà. Et puis, les plus jeunes, ben, ils n'ont pas connu l'ancien temple. Pour eux, ben, c'est tout nouveau. Et pour eux, ce qui est en train de se passer, ben, voilà, c'est que des pleurs de joie. Je crois que ça montre qu'il faut respecter les deux. Il faut respecter ceux qui peuvent, à un moment donné, parfois, avoir peut-être, malgré ce qui c'est une bonne nouvelle, là, ce qui est en train de se passer, le cœur plus lourd, parce que, voilà, il y a des choses qui reviennent à la surface, et c'est normal. On peut regretter, parfois, le passé, pleurer ceux qu'on a perdus, tout en se réjouissant de nouvelles étapes qui se font jour. Ça semble paradoxal. Parfois, dans la vie, il y a des moments de joie, de reconnaissance qui coïncident avec d'autres choses qui reviennent et qui peuvent être synonymes de souffrance, de pleurs, de quelque chose qui fait mal ou qui remonte à la surface. Mais je trouve que les deux ne sont, et on a l'exemple là, ne sont pas incompatibles. Et aux uns et aux autres, de respecter aussi cela, peut-être. Aux plus jeunes qui n'ont pas connu l'ancien, à l'époque, l'ancien temple, de dire, ben oui, on veut essayer de vous comprendre, vous qui avez connu ce temps aussi, et vous aider dans cela. Et puis, aux plus anciens, de ne pas freiner ces plus jeunes, là, qui ont aussi de l'élan, et à qui on ne peut pas reprocher de ne pas avoir connu ce temps-là. Ben ouais, ben, ils n'ont pas vécu à l'époque. Et c'est tout cela qui forme le peuple de Dieu. Je crois que c'est aussi tout cela qui forme une église. Et c'est formidable dans une église de voir des personnes plus âgées et des personnes plus jeunes. Je trouve que c'est tellement triste parfois de voir des églises où il n'y a que, excusez-moi l'expression, que des vieux, que des personnes âgées. On se dit, mais l'église va devenir quoi demain s'il y a que des personnes, je ne vais pas donner d'âge, là, parce que sinon... Hein, et puis, mais tout aussi inquiétant, s'il n'y a que des jeunes, mais on se dit, mais et les personnes âgées, elles sont où? On les a mis à la porte? Ou elles ne sont plus les bienvenues? Ça serait triste aussi, ça serait même préoccupant. Ben, puissions-nous aussi, peut-être même localement, travailler à cela. Cette unité du peuple de Dieu entre les plus âgés, les plus jeunes, et cet effort, parce que ça, je pense que ça demande un effort d'essayer de nous comprendre aussi, de comprendre les besoins des uns et des autres, parce que certainement les besoins ne sont pas les mêmes, parce qu'on n'a pas vécu la même chose. Voilà, je vais m'arrêter là, que le Seigneur puisse aussi faire de chacune, de chacun de nous, des femmes et des hommes qui peuvent aider les autres dans un travail de restauration. Nous en avons certainement besoin. Amen.